L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
D'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
L'atome n'est pas un insécable.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Une cuisine est le reflet d'une époque.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
Est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas derrière tout ça une logique?
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Il y a beaucoup de choses en nous,
les particules élémentaires,
que nous ignorons.
Je veux bien répondre quand même.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Vraiment, ça ne sert à rien.
Bien qu'au fond, on s'aperçoit de plus en plus que
Das Kapital, il ne dit pas Der Kapitalismus.
L'Agora des Savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
La science est un discours.
Du 4 novembre 2009 au 16 juin 2010, à la découverte de nos origines, une trentaine de grands conférenciers vous invitent à un voyage au cœur de leur discipline. Astrophysiciens et biologistes, philosophes et historiens, théologiens et anthropologues se succèdent. Le mercredi soir à 20h30, salle Rabelais.
Ce soir, j'ai la joie et le grand plaisir de recevoir Claude Gauthier, professeur à l'Université Montpellier III. Et je laisse tout de suite la parole à celui qui a accepté de le présenter, Vincent Tessert, qui est un jeune doctorant, qui fait d'ailleurs sa thèse avec M. Claude Gauthier, et dont j'espère qu'un jour il sera à la place de, et j'en doute pas d'ailleurs, à la place de Claude Gauthier dans une dizaine d'années pour nous entretenir des fruits de sa recherche. Vincent, le poids est lourd, à toi.
Merci Régis, et bonsoir à toutes et à tous. En effet, il me revient la lourde tâche, ou plutôt le privilège d'ouvrir cette séance de l'Agora des Savoirs. Alors, je vais essayer d'être bref, hein. Je vais me contenter de présenter Claude Gauthier. Donc, comme Régis l'a rappelé, Claude est enseignant de philosophie morale et politique et de philosophie des sciences sociales à l'Université Paul-Valéry Montpellier III. Après avoir enseigné notamment à l'Université Jules Verne, de Picardie à Amiens. Mais il est également chargé de la préparation à l'agrégation en philosophie à l'École normale supérieure de Lyon. Et puis, concernant tes responsabilités, on peut le dire également, tu es membre élu au Collège du Conseil national des universités. Alors, pour essayer de faire un bref topo sur ce qui définit, en fin de compte, tes axes de recherche, on pourrait dire qu'elles se structurent autour de trois axes. Dans un premier temps, en histoire de la philosophie, elle consiste dans l'approfondissement de la connaissance des traditions empiristes modernes anglaises et écossaises, renvoyant ainsi à ce qu'on a coutume, de désigner par le terme des Lumières anglo-saxonnes. L'ouvrage paru notamment en 2005, Hume et les savoirs de l'histoire, en est un des résultats parmi d'autres. Il t'a permis, entre autres, de centrer l'interrogation tout juste esquissée et délimitée dans tes premiers travaux sur les liens entre, d'une part, la critique de la métaphysique et, d'autre part, la lecture sceptique et empiriste des principes de la nature humaine. Dans le champ de l'histoire des théories morales, tu poursuis une réflexion sur le problème de l'affectivité et du sens moral, ou plus précisément, sur le problème de l'expression des sentiments et des rapports entre affectivité et réflexivité. Ce travail s'inscrit notamment dans le prolongement des recherches effectuées par d'autres auteurs sur le sentimentalisme moral du XVIIIe siècle et sur ses développements actuels possibles. En approfondissant finalement les connaissances relatives à cette période, tout en les confrontant à certains courants des théories morales féministes contemporaines, d'inspiration notamment anglo-saxonne, il s'agit pour toi finalement de t'interroger sur ce que veut dire et ce qu'implique se mettre à la place d'eux, dès lors que l'on accepte qu'une telle activité puisse définir les conditions de la délibération des sujets moraux. De ce point de vue, les discussions critiques, notamment celles internes au paradigme libéral assez largement délimité par les travaux de John Rawls. Oui. Ah, si je parle trop près, je prends un peu de recul. C'est une histoire de distance, la sociologie, après tout. Donc, de ce point de vue, je disais que les discussions critiques internes au paradigme assez largement délimité par les travaux de John Rawls éclairent, selon toi, différemment ce que les formulations plus habituelles suggéraient, notamment par l'emploi des termes de sympathie ou de sens moral. Dès lors, le problème de se mettre à la place d'eux, se mettre à la place de quelqu'un, bien entendu, originellement enveloppé dans les éthiques du Caire, parvient ainsi à être généralisé dans des termes d'une anthropologie morale qui suppose d'une manière différente de lier l'affect et le cognitif. Enfin, parmi tes axes de recherche, le dernier, certainement le plus actuel, c'est celui qui consiste à comparer, à mettre en rapport, à éclairer les relations qu'entretiennent la philosophie et les sciences humaines. Soulignons en fait qu'un tel projet, qui est un véritable work in progress, a le mérite de trouver une partie de sa justification dans le travail déployé autour des premières orientations de recherche, notamment celles esquissées dans Hume et les savoirs de l'histoire, et liées à une lecture sceptique de la positivité des savoirs historiques au XVIIIe siècle. Ce travail, partiellement élaboré dans l'ouvrage donc de 2005 et repris en détail dans certains de tes articles, notamment ceux portant sur l'expérience et l'histoire chez Hume, demandait, appelait une exploration plus large et devait faire l'objet d'une reformulation plus systématique encore. Or, c'est bien depuis la lecture de quelques-unes des grandes reconstructions empiristes et sceptiques de ce qu'il est possible de connaître que tu construis ton interrogation sur les rapports que la philosophie entretient avec l'un de ses dehors, l'un de ses extérieurs, à savoir les sciences humaines et sociales. Ces recherches contribuent ainsi à enrichir l'ensemble des études consacrées à la destitution de la fonction, souveraine et architectonique de la philosophie, en mesurant notamment les effets théoriques et pratique qu'une telle destitution implique à l'égard d'autres types de connaissances. Elles te permettent par ailleurs de reconsidérer les contours et les enjeux liés à l'exigence de séparation de toute connaissance sociologique d'avec la philosophie, suite notamment au geste inaugural d'Émile Durkheim. Mais finalement, cette orientation t'emmène également à considérer un autre problème situé à la croisée de la philosophie pratique et des théories sociales, à savoir le problème de la critique et surtout de la critique sociale dans son actualité. De ce point de vue, tu privilégies notamment un certain nombre d'auteurs, un certain nombre d'études concernant la sociologie française, entre autres les rapports entre la sociologie critique et la sociologie de la critique, ou encore la sociologie dite pragmatique et la sociologie de la domination. Je crois à ce titre qu'un de tes ouvrages en préparation sera notamment l'occasion de revenir sur l'ensemble de ces problèmes, puisque tu t'attaches à délimiter, essayer d'esquisser le contour de ce que l'on pourrait nommer une ontologie sociale dans l'œuvre de Pierre Bourdieu. Alors sans plus attendre, puisque je crois que j'en ai déjà trop dit, je vais te laisser la parole et puis peut-être aurai-je le droit de la reprendre pour te poser une question ou deux à la suite de ta conférence.
Merci Vincent, merci d'être venu et si nombreux. Donc je vais essayer de prendre très au sérieux l'énoncé de la leçon qui m'a été proposée. Parce que je trouve que la formule de cet énoncé, quoiqu'un peu énigmatique, présente un certain nombre d'intérêts. Et j'espère qu'au terme de mon exposé, ces intérêts seront un peu plus clairs. D'une certaine façon, le cycle dans lequel s'intègre cet exposé est formulé par la question « Qu'est-ce que la modernité ?» Et j'ai choisi d'aborder ce point à partir d'un angle un peu latéral, un peu marginal, quoique peut-être pas aussi marginal que ça, C'est celui de revenir un peu sur les origines d'une science qu'on appelle depuis Auguste Comte, Émile Durkheim, sociologie, mais qu'un philosophe un peu méconnu, Louis de Bonald, justifiait ou appelait plus justement, me semble-t-il, science de la société. Et au fond, la question que je souhaiterais me poser est celle-ci. Qu'est-ce que la quête des origines de la sociologie nous permet de comprendre de notre modernité ? Et il me semble que cette question peut faire l'objet de plusieurs réponses. J'en retiens trois qui constitueront en quelque sorte les étapes progressives de ma présentation. D'une part, on peut considérer que dans une perspective historique ou d'histoire positive, on peut retracer les étapes de la fondation de la sociologie comme discipline scientifique, qui dispose de méthodes, de moyens formalisés d'investigation, de statistiques, de lieux institutionnalisés, séparés, professionnalisés. Et que dans cette perspective d'histoire positive, l'accord entre les historiens et même les sociologues est relativement clair. La fondation de la sociologie, c'est l'affaire de quelques générations de savants qui vont accompagner en France et en Allemagne principalement le tournant du 19e siècle et du 20e siècle. Alors si on compare et si on comprend ici le terme « origine » comme « naissance » ou « fondation », peu importe le terme retenu, ça n'est pas très important pour l'instant, on constate que cette naissance est une et multiple, qu'elle va emprunter des voies diverses des deux côtés du Rhin, mais qu'en même temps, elle se caractérise par une lisibilité et une convergence relativement peu contestables. Alors la première histoire que je vais raconter, c'est celle-ci. Je donnerai quelques exemples et je me contenterai d'esquisser quelques points. Ce serait celle d'une histoire positive de la naissance de la sociologie. On peut distinguer à propos de cette naissance deux moments importants. Historiquement ou chronologiquement, on pourrait d'abord parler d'une étape où la sociologie est l'affaire de savoirs amateurs, souvent liés à des projets politiques, et d'une deuxième étape où la naissance de la sociologie correspond véritablement à un moment où le champ scientifique se transforme. Dans cette première époque, où le savoir sociologique est encore un savoir d'amateur, il faut faire le lien entre ce qui bouleverse l'Europe de cette période, c'est la révolution industrielle, c'est un bouleversement absolument considérable des rapports entre les villes et les campagnes, l'apparition de phénomènes de surmortalité sociale, l'apparition de misère économique. Et tous ces phénomènes nouveaux vont occasionner la mise en place d'appareils d'observation sociale qui vont utiliser des méthodes quantitatives, qui vont utiliser ce qu'on appelait encore l'arithmétique morale. Autant d'éléments qui vont favoriser en France, par exemple, la multiplication de ce qu'on a appelé également les enquêtes sociales. Et ces enquêtes, elles ont été souvent le fait d'observateurs privilégiés comme les médecins, les prêtres, les juristes, les magistrats, les hommes de lettres. C'est-à-dire des gens qui avaient une disponibilité en temps ou en moyens pour se consacrer à cette observation qu'on pourrait dire humaniste, philanthropique ou encore hygiéniste. Alors, il faut bien constater que cet effort de radiographie sociale reste malgré tout très empreint de moralisme et qu'il est surtout lié à certains types de préoccupations d'élites qui sont proches du pouvoir, maîtriser, contrôler les groupes sociaux, etc. Dans ce contexte également, toujours de moments un peu, pré-professionnalisés, éclos et nés de nombreuses sociétés savantes. Juste quelques dates pour vous donner quelques points de repère. En 1829, la Société française de statistique universelle. En 1830, la Société libre de statistique. En 1833, la Société de statistique à Londres et bien d'autres encore. On pourrait évoquer également dans le même contexte et à la même époque le cas exemplaire. Je dis exemplaire parce qu'il est très représentatif d'un parcours atypique ou du point de vue d'une sociologie encore non professionnalisée, c'est le parcours de Frédéric Leplay, dont les dates sont 1806-1882, qui est un ingénieur des mines, qui est conseiller très écouté de Napoléon III, et qui va constituer la Société d'économie sociale, et qui, à partir de 1857, va se lancer dans une vaste enquête comparative de plusieurs pays sur les monographies de familles ouvrières. Il faut simplement savoir que ce travail s'achèvera après sa mort et qu'il donnera lieu à la publication d'un certain nombre de volumes intitulés « Les ouvriers des deux mondes ». Ainsi, on peut dire que sur la première moitié du XIXe siècle, la sociologie est encore une forme d'expertise sociale, mais très peu professionnalisée est très lié à des formes d'intervention politique. Alors, je voudrais quand même ici mentionner, juste pour mémoire, qu'il y a quelques exceptions notables. Je citerai seulement le cas de Marx, 1818-1884, qui incarne le mieux l'effort pour essayer de donner une cohérence théorique et systématique à l'ensemble des transformations sociales qui bouleversent le paysage politique, économique de cette Europe en voie d'industrialisation. Au-delà de cette première phase, encore de savoir amateur, une seconde phase qui va correspondre avec le tournant des deux siècles et qui là est véritablement, du point de vue de l'ensemble des historiens, celle de la fondation de la sociologie. Alors, elle correspond, cette phase de fondation, à un certain nombre de transformations tout à fait importantes du cadre et du champ de la recherche. D'une part, je rappelle simplement pour le cas français, qu'après la consolidation de la Troisième République, l'essor des universités, l'adoption de l'instruction obligatoire, la cristallisation d'un certain nombre de facteurs vont permettre de déployer de manière beaucoup plus systématique une connaissance du social. Je signale également que dans ce contexte triomphent les sciences expérimentales qui, par la voie de la psychologie notamment, vont gagner les sciences de l'homme. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai en France, aux États-Unis. Une manière plus rigoureuse d'aborder le fait psychique et qui ne sera pas sans conséquence, bien évidemment, sur la naissance de la sociologie, puisque un des problèmes de la naissance de la sociologie sera aussi celui des rapports entre la psychologie et la sociologie. On peut dire que d'une certaine façon, à partir de cette période, vont se développer des organes de publication, de diffusion de la connaissance, qui sont très importants. En France, par exemple, en 1893, la naissance de la Revue internationale de sociologie, en 1898, l'année sociologique. À Bruxelles, en 1900, les Annales de la sociologie. En Angleterre, en 1908, la Sociological Review. Bref, un ensemble d'inventions, un ensemble d'institutions qui manifestent de façon très explicite que le champ professionnel de la sociologie est en train de se constituer. Parallèlement, dans ce même temps, les chaires universitaires vont elles aussi se développer. La première est encore toute provisoire, date de 1887, année où Émile Durkheim est nommé sur un cours de sciences sociales à l'université de Bordeaux. En 1907, la première chaire de sociologie en Angleterre est également créée. En Allemagne, c'est Georg Simmel qui sera nommé sur un poste de philosophie et de sociologie à l'université de Strasbourg, alors allemande. Donc, des deux côtés, l'école française, l'école allemande constituent à cette époque la genèse, ou plus exactement la fondation de cette sociologie dont les deux figures de proue sont Émile Durkheim pour le côté français, 1858-1917, et Max Weber pour le côté allemand, 1864-1920. Alors, juste quelques remarques, je laisserai de côté la tradition allemande, quelques remarques sur Durkheim qui est agrégé de philosophie normalien et qui sera un des premier chef d'école de l'école sociologique française, soucieux d'assurer la cohérence et l'unité programmatique de ses recherches. Il va fédérer autour de lui tout un ensemble de chercheurs, tout un ensemble de générations de chercheurs qui vont évidemment contribuer à l'essor de la sociologie française. Je ne citerai, pour exemple, que Marcel Mauss ou encore Maurice Halbwachs. Générations qui vont assurer la transition entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Marcel Mauss décédera en 1950 et il est l'auteur du fameux essai sur le don. Donc, je dirais pour terminer avec ces remarques factuelles que si on considère l'histoire de la sociologie du point de vue de sa professionnalisation et de sa fondation, on ne peut que s'accorder sur le fait que la sociologie est fille de la Révolution française et qu'elle est fille également de la Révolution industrielle. Et que d'une certaine manière, cette association des deux types de révolutions est évidemment en rapport avec la naissance de cette science et que d'une certaine façon encore, il y a bien un lien ou un premier lien à établir ici entre la modernité et la sociologie. Cette naissance est certes d'une importance tout à fait décisive, mais il me semble que ce serait limiter un petit peu la portée de la question que de s'en tenir là. Et comme vous le pouvez tout à fait l'imaginer, mon propos va être de dépasser un peu cette première évidence, non pas qu'elle soit simple, mais en tout cas d'essayer de revenir un petit peu sur l'acception du terme origine et de comprendre cette question d'une autre façon. Si on refuse effectivement de résoudre l'énigme de la formation d'une science de la société par le seul moyen d'une histoire positive, qui est connue et reconnue, on peut peut-être accepter que cette naissance a, elle, été précédée par toute une série de transformations, de déplacements, sur le plan religieux, sur le plan moral, sur le plan esthétique, politique, théologique, cosmologique. Et que réfléchir aux origines de la sociologie, c'est peut-être également se poser les questions qui portent, du point de vue des représentations de la société, sur ces préalables, en quelque sorte. Poser cette question, c'est évidemment revenir à ce qu'on a appelé, en le critiquant, la question des précurseurs. Autrement dit, s'il y a des fondateurs de la sociologie, et ces fondateurs, nous les connaissons, et l'histoire de cette fondation est relativement claire et bien écrite, la question des précurseurs, elle, est beaucoup plus problématique, et elle engage évidemment des controverses tout à fait importantes. Mon propos n'est pas ici de diluer en quelque sorte la positivité de l'histoire institutionnelle, des pratiques sociologiques. Elle est simplement d'essayer de comprendre qu'il est possible d'ajouter à cette première histoire une seconde histoire que je vais essayer d'illustrer à partir de deux exemples et qui porte, elle aussi, sur la manière dont on interprète cette fois-ci le projet sociologique. D'une certaine façon, mon propos ici, dans cette seconde histoire, sera de montrer qu'on ne peut pas faire une histoire de la sociologie sans s'interroger sur ce que signifie le regard sur le monde social. Alors je voudrais, pour illustrer ce point de vue, prendre deux exemples. Un exemple d'histoire de la sociologie qui a été écrit par un très grand monsieur, Raymond Aron, qui publie en 1967 un ouvrage qui s'intitule « Les étapes de la pensée sociologique ». Et un autre exemple écrit ou rédigé par un historien américain de la pensée sociologique continentale qui s'appelle Robert Nisbet et qui fait paraître en 1966, c'est-à-dire pratiquement à la même date, un autre grand classique qui va être traduit en français seulement en 1984 sous le titre « La tradition sociologique ». Alors ce qui m'intéresse ici, dans ces deux exemples, c'est de constater deux choses. Premièrement, que ces deux auteurs s'accordent parfaitement sur la période et les auteurs qui forment la fondation de la sociologie. En partant de problématiques complètement différentes, on retrouve, en dépit de ces différences, Durkheim, Halbwachs, Mauss, Tönnies, Weber, Simmel. Autrement dit, les mêmes fondateurs et les mêmes auteurs pour la tradition française et pour la tradition allemande. En revanche, dès qu'on va s'intéresser à ce qui précède cette sociologie, eh bien, parce que tout simplement, il n'y a pas de génération spontanée, pas plus en sociologie qu'ailleurs, les divergences entre ces deux modèles historiques vont s'accuser. Alors Raymond Aron, juste pour donner quelques éléments de réflexion, rédige son histoire dans le contexte de la guerre froide. Et je le cite, il dit qu'il cherche à voir s'il n'y a pas quelque chose de commun entre ce qu'il appelle la sociologie marxiste, telle que l'exposaient les sociologues venus de l'Europe orientale, je le cite, et la sociologie empirique, telle que la pratiquaient les sociologues occidentaux en général et les sociologues américains en particulier. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est que ce cours, puisqu'au départ c'était un cours, avait pour titre originel « Les doctrines de sociologie historique ». On voit bien ici que ce qu'il s'agissait de raconter pour Raymond Aron portait sur la manière dont la sociologie pouvait résoudre ou énoncer un problème qui portait sur le sens de l'histoire. Au fond, la guerre froide, l'issue indécise du côté des pays de l'Est, des totalitarismes, tout cela pouvait conduire à repenser l'histoire de la sociologie comme étant une occasion d'un regard détourné à partir duquel comprendre le devenir et la nature des transformations sociales des sociétés contemporaines. D'une certaine façon, le problème de la sociologie, tel qu'il apparaissait en tout cas décisif aux yeux de Raymond Aron, c'était bien celui de la place et du rôle des individus, de leur liberté, dans le devenir concret des sociétés contemporaines. D'une certaine façon, la sociologie et l'histoire de la sociologie devaient permettre de redonner ou de requalifier cette place de l'individu, sa responsabilité, ses libertés, en quelque sorte, pour éviter de le poser comme un agent purement déterminé par des lois inéluctables qui l'écrasent ou l'aliènent. D'une certaine façon, on voit bien ici que le projet d'interprétation de la théorie sociologique se trouve en quelque sorte adossé à une préoccupation d'un temps présent, et que cette préoccupation, si elle n'a pas directement un impact sur les auteurs qui sont reconnus comme étant les fondateurs, va en contrepartie modifier complètement la lecture des précurseurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles, lorsque vous regarderez, s'il vous arrive de regarder par curiosité cet ouvrage, le texte de Raymond Aron, vous verrez que les précurseurs se nomment notamment Montesquieu, le Montesquieu de l'esprit des lois, se nomment Tocqueville, celui de la démocratie en Amérique, ou se nomment Marx, celui du capital. Et quand on essaye de comprendre pourquoi cette triade de précurseurs, eh bien, on se rend compte qu'en fait, cette triade va permettre à Raymond Aron de poser les termes d'une alternative entre, d'un côté, une pensée qui représente l'individu, l'individualisme politique de Tocqueville, de l'autre, une pensée des lois historiques, des transformations sociales avec Marx, son matérialisme historique, et enfin un pivot, un axe intermédiaire, Montesquieu. Montesquieu qui, aux yeux de Raymond Aron, va chercher à décrire comment advient l'équilibre entre ce qu'il appelle les mœurs, les lois, l'esprit d'une nation. Un équilibre qui, aux yeux de Raymond Aron, devait permettre de penser les particularismes sans méconnaître les grandes régularités. Comment penser la régularité des lois et la variété ou les multiples différences en lesquelles ces lois s'incarnent? Comment concilier les principes de la nature humaine et ceux d'une nature qui enveloppe les sociétés? Autrement dit, dans le cas de Raymond Aron, il me semble que cette analyse des précurseurs lui permettait de remplir deux fonctions. D'une part, d'installer le cadre général d'une vision ou d'une représentation des problèmes que doit traiter la sociologie comme science, identifier la place de l'individu dans la société, définir la société et donc définir l'individu, et d'autre part, proposer une grille de lecture qui allait permettre d'orienter la description des moments positifs de fondation de la sociologie comme une interprétation de la relation entre individu, société et histoire. Je reviendrai sur les conclusions qu'on peut tirer de cet exemple. Je passe tout de suite au cas de Robert Nisbet, qui est lui tout autre, mais tout aussi révélateur. À ses yeux, le problème de la sociologie, et il le repère chez les mêmes auteurs fondateurs, c'est le problème de la sociabilité. D'une certaine manière, il va retenir une série de couples conceptuels qu'il va construire sous la forme d'une opposition, et je me limiterai ici à commenter un de ces couples, qui est l'opposition entre communauté et société. Et reprenant ce qui a été développé par Émile Durkheim, par l'ensemble des sociologues de cette époque, il repère que, au moment où la sociologie se constitue, la communauté apparaît comme l'occasion de modéliser un type de société où le collectif l'emporte sur l'individuel, où l'individu est en quelque sorte assujetti aux règles de la communauté, la famille, le clan, la parentèle, etc. Et puis de l'autre côté, autre terme du couple, la société, avec une valorisation du lien social qui autorise l'expression des différences, avec des formes de solidarité qui ne sont plus celles de la communauté, qui font valoir l'interdépendance, les individualités, des professions différentes, ce que Émile Durkheim analyse très clairement dans « De la division sociale du travail ». Alors ce qui est ici important, par rapport à la question que je pose, c'est ceci, c'est que, encore une fois, nous avons affaire à une réflexion sur la place ou le statut de l'individu dans la société. Mais ici, Nisbet, dans sa démarche, va poser la question d'une toute autre façon que Raymond Aron. au lieu de s'intéresser à une sorte de matrice rétrospective, en raison, ou plutôt à partir de l'époque des totalitarismes, ce qu'il va chercher à expliquer, c'est comment la sociologie de la fin du XIXe siècle se pose la question de la remise en cause des formes de sociabilité, c'est-à-dire de la destruction de ce qui fait lien social, c'est-à-dire de la déstructuration de ce qui faisait que la société tenait comme un ensemble. Autrement dit, ici, comment interpréter que la sociologie ait pu retenir comme objet premier l'analyse des formes pathologiques de remise en cause du lien social. Autrement dit, qu'est-ce qui provoque l'affaiblissement des solidarités ? Affaiblissement qui pouvait aller jusqu'à menacer l'existence même de la société moderne. On voit bien ici que c'est une autre manière d'appréhender la modernisation, non pas en regard des totalitarismes, mais en regard de ce que les révolutions politiques, industrielles, pouvaient produire ou avaient produit entre la fin du XVIIIe siècle et tout le XIXe siècle. Et d'une certaine façon, cette analyse des formes pathologiques du lien social, eh bien, elle va conduire à réfléchir autrement sur ce que devient l'individu dans les sociétés modernes comme être isolé, comme être vulnérable ou atomisé. Et du coup, l'axe interprétatif ici n'est plus la triade que j'évoquais à propos de Raymond Aron, elle va porter précisément sur la manière dont on a pu interpréter, au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, justement les formes traditionnelles d'intégration de l'individu dans la société. Autrement dit, la question est ici, et ça explique le titre, la tradition sociologique, elle ne vise pas à essayer de replacer le statut de la liberté et de la différence dans une société dont l'évolution des lois risque de menacer jusqu'à ces libertés. Elle consiste au contraire à réfléchir sur le fait que l'individualisme excessif menace la solidarité et la force du lien social. Autrement dit, ici, les auteurs qui vont devenir pertinents du point de vue de la mise en évidence de ces questionnements préalables à la fondation de la sociologie ne sont plus Montesquieu, ne sont plus Tocqueville, ne sont plus Marx, mais ils vont être des auteurs qui vont s'efforcer ou qui ont consacré leur pensée à la question de la communauté et de la tradition. Et ces auteurs, eh bien, tout simplement, on va les retrouver autour de gens comme Edmund Burke, je suis un peu fatigué, 1729-1797, qui est un auteur contemporain de la Révolution française. Il va aller chercher du côté de Joseph de Maistre, également 1753-1821, ou de Louis de Bonald, 1754-1840, qui sont des auteurs qui vont fustiger en quelque sorte les excès du rationalisme des Lumières, les excès de l'individualisme qui est en quelque sorte l'héritage des Lumières, qui vont essayer de dénoncer tous les effets de la sécularisation, de la séparation de la politique et de la religion, qui vont essayer de contester ou de mettre en évidence les effets négatifs portés par l'idéologie égalitaire et vont faire l'apologie des hiérarchies traditionnelles, en quelque sorte, des facteurs d'intégration et de cohésion de la société qui supposent une forme d'inégalité. Autrement dit, on voit ici se dessiner une matrice qui consiste à opposer d'un côté les penseurs de la tradition, de l'autre des individualismes, et qui va constituer en quelque sorte un terme de comparaison avec les sociologues qui, eux également, au XIXe siècle et au XXe siècle, vont, à partir de l'expérience des transformations industrielles, réfléchir sur les pathologies de l'individualisation excessive, sur les formes de misère sociale qui sont entraînées par l'affaiblissement du lien social. Je signale juste pour mémoire que la quatrième partie de la division du travail social d'Émile Durkheim est un texte qui est consacré en totalité aux formes pathologiques de la division, c'est-à-dire à l'excès de la spécialisation en tant qu'elle produit des modes de désintégration sociale qui sont évidemment porteurs d'effets négatifs. Autrement dit, cette orientation centrale de la sociologie à sa naissance autour des questions de l'intégration et des formes anémiques de la désintégration trouve aux yeux de Nisbet une justification dans la recherche d'une époque de précurseurs qui, eux, ont déjà thématisé l'opposition entre l'individualisme et la tradition. Alors, on voit bien ici, dans ces deux modèles historiques, comment on peut confronter la naissance objective, ou plus exactement positive, de la sociologie scientifique avec un modèle interprétatif qui, évidemment, lui donne une coloration tout à fait distincte. Alors, je voudrais, avant de poursuivre, tirer un certain nombre de conclusions ou d'éléments de cette comparaison. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ces deux exemples? Eh bien, on peut dire que on ne peut pas séparer complètement l'analyse historique positive de la naissance de la sociologie d'une manière d'interpréter son projet. Et qu'à partir du moment où on relie ainsi les deux démarches, eh bien, on se rend compte que ce qui précède la naissance de la sociologie fait l'objet de controverses, fait l'objet de différences et de conflits interprétatifs. Au fond, si ces deux projets de Raymond Aron et de Nisbet portent sur la manière de comprendre ce qui relie l'individu à la société, d'un côté l'exigence d'une reconnaissance des libertés de l'individu, un diagnostic établi à partir d'une lecture implicite des expériences totalitaires, de l'autre côté l'exigence d'une reconnaissance des effets que peuvent produire les individualisations excessives sur les formes de socialisation, eh bien, dans les deux cas, la matrice interprétative va évidemment varier. D'un côté, Montesquieu, Marx et Tocqueville, de l'autre, Burke, de Maistre, de Bonald, Spencer, et bien d'autres encore. Aussi, serais-je tenté de dire que s'interroger sur les origines de la sociologie, c'est, me semble-t-il, prendre acte d'au moins deux séries de problèmes. D'une part, c'est reconnaître un moment historique de fondation. D'autre part, c'est interpréter la nature même du projet de connaissance, c'est-à-dire la façon de concevoir la question de la nature de la société. Parce que tout simplement, l'émergence de la figure de l'individu, qui est une caractéristique de cette modernité, l'émergence de la figure de l'individu comme valeur, comme fait, va rendre indécis les contours de la place que la société va lui faire. Autrement dit, on pourrait résumer encore ce que je viens de dire à travers ces oppositions entre contrainte et liberté, entre tradition et changement, entre transformation et conservation. Voilà l'ensemble des alternatives qui permettent de dessiner quelques pourtours du problème sociologique, en tout cas au moment de sa naissance. Alors, comme vous l'aurez remarqué, on rentre ici déjà dans une histoire qui est beaucoup plus difficile, puisque, au fond, le point de vue adopté sur l'objet introduit des variantes ou des variations tout à fait significatives. Et selon que l'on oriente la lecture du côté individualiste ou du côté solidariste, les auteurs que l'on va rechercher comme précurseurs sont évidemment des auteurs différents. Et je crois que cette indécision ou cette indétermination des figures de précurseurs fait partie du projet sociologique lui-même et relie de façon assez organique, me semble-t-il, la sociologie à la modernité, si l'on accepte ici de comprendre la modernité dans les deux sens, à savoir que, quelque part, la révolution politique et la révolution industrielle sont les manifestation d'un bouleversement tout à fait inédit, et qu'en même temps, essayer de comprendre ce qu'est l'individu et la place qui le définit dans la société est également un élément de cette modernité. Donc, du côté de l'histoire des sciences de l'homme, tout comme du côté de l'interprétation des modèles explicatifs, de ces nouvelles représentation de la société, on voit bien que les origines, pour utiliser le terme du titre de la sociologie, se rapportent intimement à la modernité. Il me semble malgré tout qu'en rester là est encore insuffisant. Et je crois qu'il est important que je raconte, ou que j'esquisse là aussi, une troisième histoire. Il m'est arrivé d'employer l'expression à plusieurs reprises du regard sociologique, du point de vue sociologique, du point de vue d'observation sur le monde social, sur la société. En prononçant ces expressions, je laissais entendre de manière trop implicite, me semble-t-il, que la mise en place de la sociologie allait de pair avec l'invention d'un nouveau regard, de nouvelles manières de considérer l'objet société. Or, on sait bien que métaphore n'est pas raison, et je vous dois sur ce plan quelques explications. Alors, pour ce faire, je vais procéder en deux temps. Premier temps, c'est encore discuter un exemple que je vais emprunter à Durkheim, je vais y revenir dans un instant, et qui illustrera ce que j'appelle le regard sociologique. Et le second temps, ça sera peut-être l'occasion d'esquisser les contours d'une troisième histoire. Je me contenterai de quelques remarques générales, rassurez-vous, pour simplement achever de rendre un peu plus complexe l'énoncé du propos qui nous réunit ce soir. Alors, qu'est-ce que le regard sociologique ? Je voudrais ici emprunter un exemple qui est un exemple classique dans la sociologie française, qui est celui du suicide. Mon objectif est évidemment simplement de donner quelques éléments pour permettre de comprendre en quoi on peut passer d'un regard ordinaire à un regard sociologique. Émile Durkheim, dans Les règles de la méthode, insistait beaucoup sur la nécessité de rompre avec les préjugés communs. Il fallait observer le social, et observer le social, ça voulait dire notamment établir, en termes un peu plus précis, ce qu'il appelait les faits sociaux. Or, connaître la société ne pouvait pas passer par le moyen d'une simple photographie, d'un simple récit de la réalité. Autrement dit, le regard du sociologue suppose une intervention. On construit les faits qu'il s'agit d'observer, si vous me permettez ce paradoxe. Pour illustrer ce point, Durkheim va rédiger un texte qui a fait grand bruit et qui paraîtra en 1897 pour sa première édition, qui est « Le suicide ». On sait que ce texte est rédigé dans un souci pédagogique et qui s'adresse non seulement à sa communauté des pairs, hein, aux universitaires avec lesquels il bataille, qui sont les philosophes, les moralistes et évidemment les psychologues. Alors, il part d'une série de constats. Les constats sont les suivants, ils sont relativement connus. Hein. On a l'habitude de parler du suicide comme d'un événement singulier qui traumatise les familles, les proches, qu'on rapporte à la biographie du suicidé, et qu'on essaye de mettre en évidence comme quelque chose de parfaitement irréductible. La façon habituelle de voir, de comprendre le suicide, c'est donc de l'expliquer par des motivations privées et personnelles. C'est de faire référence à la psychologie de l'individu. Alors, à l'époque, il y avait aussi des interprétations physiologiques, hein. On utilisait même parfois, en tout cas au 19e, à la fin du 19e siècle, c'était encore des explications qui avaient une certaine autorité, puisqu'on parlait des suicides comme des êtres anormaux. Durkheim, lui, va proposer une analyse sociologique du suicide. À ses yeux, les explications sociologiques, ou les explications par l'anatomie, sont absolument pas crédibles parce qu'elles confondent les effets et les causes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tenter une autre approche. Et cette approche, elle consiste non pas à prendre les suicides un à un, dans leur irréductibilité, c'est au contraire en les agrégeant, en les ajoutant, en les rapprochant, en les regroupant, pour prendre non pas chaque suicide séparément, mais un ensemble de suicides sur des périodes de temps. Il va construire ainsi des indicateurs, un peu analogue à ceux qu'on utilisait dans l'analyse démographique, il va construire ce qu'on appelle des taux de suicide. En agrégeant toutes ces morts singulières, qui sont prises une à une comme parfaitement imprévisibles, irréductibles, émerge une réalité nouvelle. Et cette réalité nouvelle, eh bien, elle apparaît non pas directement observable à l'œil nu, mais comme un produit d'une construction statistique. Dès lors, en raisonnant sur ces taux de suicide, Émile Durkheim va faire apparaître des relations assez troublantes entre ces taux et des variables sociales comme la religion, le sexe, l'âge, la région, les rythmes sociaux. Ainsi, par exemple, en tout cas à l'époque où il fait ses enquêtes, les juifs se suicident moins que les catholiques, qui eux-mêmes se suicident moins que les protestants. Il y a plus de suicidés chez les jeunes que chez les vieux. Le nombre de suicides augmente en période de crise, etc. Bref, l'imprévisible paraît rentrer dans un certain ordre, un ordre de la prévision, et l'événement qui était marqué par son irréductibilité individuelle semble échapper au sort de l'individuel pour rentrer dans un ordre impersonnel, qui est celui d'une spécification de la société tout entière. Ainsi, Durkheim dira-t-il, je le cite, « Chaque société est prédisposée à fournir un contingent déterminé de morts volontaires. » Alors, on voit donc apparaître des régularités où là où il n'existait que de l'imprévisible et du hasard. Et ces régularités, Durkheim va montrer qu'elles sont explicables à partir d'une typologie relativement simple que je ne développerai pas, mais qui consiste à montrer qu'au fond, les variations du suicide, du taux social de suicide, ne sont pas tributaires directement d'une psychologie individuelle, donc ne sont pas à rapporter immédiatement aux sentiments des individus, mais aux formes prises par les liens sociaux. Dans cette perspective, il va distinguer un suicide égoïste par excès de désintégration sociale. Il va distinguer un suicide altruiste qui, lui, marque un excès d'intégration sociale et un suicide qu'il va appeler anomique qui, lui, est lié à un état de dérèglement social. Alors, dans le cas de ces trois suicides, ce qui est intéressant, c'est que l'explication ne réside pas dans la psychologie, mais dans un niveau ou un degré d'intégration dans la société. Autrement dit, c'est bien la force du lien social qui, d'une manière ou d'une autre, paraît rendre compte d'une forme ou d'une autre forme d'attitude en face de la mort volontaire. Autrement dit, on peut dire que derrière cette typologie des suicides, ce que Durkheim essaye d'esquisser, c'est une théorie générale de l'intégration sociale. Autrement dit, que peut-on tirer de cet exemple ? On peut tirer, me semble-t-il, plusieurs informations ou plusieurs enseignements. Tout d'abord, le fait social, ce qui est objet du regard du sociologue, est d'un autre ordre. Il n'est pas directement et immédiatement visible. Ce fait social, qui est l'objet du regard sociologique, se caractérise par une certaine régularité ou par une certaine prévisibilité. Ce qui veut donc dire que ce que va permettre de mettre en évidence le regard sociologique, que ce soit le suicide, que ce soit les comportements démographiques, c'est des formes de régularité qui échappent et qui s'opposent en quelque sorte à nos manières spontanées de voir. Autrement dit, le changement de point de vue, celui qu'adopte le sociologue lorsqu'il va s'interroger sur la société, c'est très précisément ceci que j'ai essayé maladroitement d'évoquer à propos de l'exemple du suicide, et qui consiste dans ce que j'appellerais, moi, l'invention proprement sociologique. On peut d'ailleurs comprendre à propos du suicide les résistances qui ont été opposées, en quelque sorte, à ce regard, puisque d'une certaine façon, manifester la régularité d'un taux social de suicide, c'était ipso facto indiquer que certaines des causes du suicide étaient à rechercher dans la société elle-même, et non pas forcément dans la subjectivité de chacun des individus. Autrement dit, que c'était bien un problème de socialisation ou d'intégration qui pouvait être une des causes sociales du suicide. Et je vous laisserai faire le lien, évidemment, avec une certaine actualité. Je continue. Autrement dit, ce qui me semble ici le point le plus fort dans le texte de Durkheim, dans cet ouvrage classique, c'est qu'il va ouvrir un nouveau continent au regard sociologique. Et ce continent, évidemment très fortement polémiqué, très fortement controversé, c'est celui du rapport entre la psychologie et la sociologie. Au fond, l'idée sociologique, c'est de se dire que peut-être le suicide n'est pas simplement le fait d'un développement psychique, mais qu'il est peut-être une manière, sur le plan psychologique, de prolonger des déterminations sociales. Autrement dit, ici, ce qui advient et qui va ouvrir un ensemble de discussions qui vont traverser toute l'histoire de la sociologie jusqu'à l'anthropologie structurale d'un Claude Lévi-Strauss, entre autres, c'est évidemment celui de la rencontre entre l'individuel et le social, entre les déterminations qui poussent l'individu dans sa conduite et ce qui relève de la subjectivité. D'une certaine manière, il me semble qu'ici, l'invention proprement essentielle du regard sociologique, elle tient dans ceci que le sociologue peut lui aussi, non pas simplement s'intéresser aux phénomènes de groupe, mais pousser l'investigation jusque dans la partie la plus intime des individus, à savoir leur psychologie. Alors, il ressort de tout ce que je viens de dire que le regard sociologique est évidemment soutenu par un ensemble de médiations, qui sont ici les méthodes de construction de l'objet, de description de l'objet, qui permettent de renoncer à l'illusion d'une connaissance immédiate et transparente de la société. Alors, c'est ce que je voudrais maintenant essayer d'approfondir un peu, et ça sera le dernier point, en quelque sorte, de mon exposé, c'est réfléchir un petit peu à cette disposition au regard, qui parvient à faire ou à proposer une représentation de la société comme un objet de la sociologie. Et cette disposition au regard, elle est évidemment elle-même l'aboutissement d'une très longue histoire. Et il me semble que c'est évidemment sur ce point que se fait une fois encore la liaison entre la modernité et la naissance de la sociologie. Cette disposition au regard, dans le domaine de la sociologie, elle accompagne, avec ses modalités propres, le mouvement de constitution des sciences de l'homme en général. C'est-à-dire de ces sciences particulières qui ont l'homme pour objet, ici l'homme en tant qu'être en société, mais qui ont aussi l'homme comme sujet observateur. Ce qui fait ici la particularité de ces sciences, qu'on appelle aujourd'hui sciences sociales, et auxquelles est rattachée la sociologie, c'est que la relation entre l'objet et la connaissance, l'objet de connaissance et le sujet, sont de même nature. L'homme comme sujet, l'homme comme objet. Pour le dire autrement, si l'on compare avec d'autres sciences, la physique par exemple, observer la chute des corps engage certes l'homme en tant qu'observateur, mais son objet, au moins en première approximation, lui est extérieur. Extérieur non pas en cela qu'il est indépendant du sujet qui expérimente, mais tout simplement parce que ça n'est pas un objet de même nature. Alors, on peut imaginer les difficultés qui vont être celles du sociologue qui est à la fois un spectateur et en même temps l'objet de l'observation. Alors, je devrais dire que ça n'est pas tout à fait juste parce que d'un côté, il y a l'homme qui observe comme sujet d'observation et de l'autre, l'homme comme objet est un homme en tant qu'il est un être en société, c'est-à-dire en tant qu'il est pris dans un ensemble de conduites, d'activités qui le caractérisent. C'est à condition de bien faire la différence entre ce qu'est un sujet qui observe, qui regarde, et tout ce qu'il observe, tout ce qu'il regarde dans les sciences de l'homme, qu'il sera possible d'inventer ce nouveau regard. La difficulté, c'est évidemment de ne jamais oublier qu'entre l'homme qui observe et celui qui est observé, il y a une différence. Entre le sujet qui observe et l'objet qui est observé, même s'il s'agit dans les deux cas de l'homme, ce ne sont pas les mêmes hommes, car les positions qui les définissent sont-elles très différentes. D'un côté, l'homme est un spectateur, un observateur, un voyeur même. De l'autre, l'homme est un acteur, un être observé. Autrement dit, deux types de postures ici définissent la relation entre le sujet et l'objet. D'un côté, celle de celui qui est directement impliqué dans ses pratiques, dans le mouvement ordinaire de ses actions, celui qui est observé, et de l'autre, celui qui va se mettre en position de pouvoir regarder, de pouvoir observer. Autrement dit, la relation va unir deux types de protagonistes. D'un côté, celui qui se met à distance pour regarder le monde, le représenter, et de l'autre, celui qui est pris dans le flux continu de ses actions. Autrement dit, on voit bien ici que l'invention du regard, elle consiste à poser une distance entre un sujet et un objet, et que poser cette distance, c'est pas simplement séparer un homme sujet et un homme objet, c'est aussi adopter une manière de regarder. Autrement dit, notre problème se complique un tout petit peu, et on voit bien ici que ce que Louis de Bonald appelait de ses voeux la science de la société suppose de faire de la société un objet de connaissance. Et que faire de la société un objet de connaissance, c'est évidemment élaborer un type de regard, un point de vue, à partir duquel observer et rendre compte de ce que l'on observe, c'est-à-dire en faire une représentation. En l'espèce, on peut dire que la sociologie, comme beaucoup d'autres sciences de l'homme, suppose l'invention d'un type de distance qui interpose, ou qui interpose d'un côté un observateur et ce qu'il regarde, pour construire une image qui est celle de la société. Ainsi qu'a pu le dire Michel Foucault dans une formule très célèbre dans Naissance de la clinique, l'invention du regard sociologique, comme dans beaucoup d'autres sciences sociales, suppose une instrumentalisation du regard. Et si l'on admet que la perspective, l'invention de la perspective rectiligne, qui est elle-même corrélative d'une mathématisation du regard, est l'une des conditions de possibilité de ce regard comme disposition à la représentation, alors on comprendra que la sociologie, tout comme les autres sciences de l'homme, se trouve une troisième fois d'emblée ancrée dans notre modernité. Alors, je vais juste indiquer ici quelques points de repère. Je, malheureusement, n'aurai pas le temps de vous raconter tout ce que j'avais prévu de vous raconter. Je voudrais simplement indiquer qu'au fond, on pourrait tout à fait faire l'analogie ici entre ce geste fondateur qui a été celui de Descartes, qui, dans son discours de la méthode de 1637, pouvait affirmer à propos de la connaissance de la nature la chose suivante. Connaissant, je le cite, la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Autrement dit, la mise à distance, ça n'est pas simplement un geste qui va objectiver, c'est pas seulement un geste qui va constituer la nature en objet, mais c'est également un geste qui va permettre l'emprise, c'est-à-dire l'enrôlement dans des usages. Au fond, la distance, ici, est une affaire de maîtrise. Elle institue un rapport qui, tout en même temps, va poser l'objet dans une sorte d'extériorité qui situe l'observation, l'observateur dans une position d'éminence et qui va lui donner des prérogatives sur ce qu'il regarde. On pourrait exactement dire la même chose de la perspective rectiligne. Et je voudrais juste ici essayer d'indiquer en quoi ceci intéresse la sociologie. Si la science de la nature, qui invente tout à la fois la figure du sujet et la forme du rapport qui lui permet d'objectiver ce qui est à connaître, si cette science de la nature relève de notre modernité, on peut par analogie dire la chose suivante. Qu'est-ce qui tient lieu de nature dans la science de société? Qu'est-ce qui, à partir d'un point de vue unique, va permettre de représenter comme une extériorité, comme une peinture encore, pourrait-on dire, ce qui s'observe, ce qui se donne au regard, à savoir la société? On voit bien ici que la question posée est un petit peu plus complexe que celle qui a servi de point de départ, puisqu'au fond, la question et celle-ci, à quelles conditions et comment un point de vue qui permette de faire, c'est-à-dire d'observer une nature particulière qui est une nature analogique et qui va revêtir des qualités particulières, qu'on va appeler société. Qu'est-ce qui permet de penser et de se représenter la société comme une extériorité? Eh bien, il me semble que s'il y a un sens à parler des origines de la sociologie, eh bien, c'est très précisément dans l'invention de ce regard particulier sur la société, c'est-à-dire dans cette capacité à se mettre à distance, à adopter un point de vue, et à faire apparaître la société comme une nature. C'est-à-dire comme quelque chose qui, dans ses manifestations, apparaisse comme indépendant de celui qui observe. Alors attention, ici, évidemment, il s'agit d'une analogie. Je ne dis pas que la société est une nature. Je dis simplement que l'on peut regarder la société comme une nature. Et il est clair que c'est le « comme » ici qui est important, puisque il indique toute la distance qui doit séparer l'identification de la nature à la société ou de la société à la nature. Alors évidemment, et ça sera le dernier point que j'évoquerai pour conclure sur cette brève présentation, il me semble que ce que je viens de décrire là n'est pas très original, puisqu'on le retrouve formulé de manière beaucoup plus radicale et beaucoup plus efficace dans la proposition d'Émile Durkheim, qui, dans son opus sur les règles de la méthode sociologique, indiquait qu'il fallait considérer les faits sociaux comme des choses. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, comme des choses? Non pas que le social est une chose, mais qu'on devait pouvoir le regarder et donc le représenter comme une chose. L'analogie ici était absolument importante parce qu'elle devait permettre de surmonter deux types de difficultés. D'une part, il fallait s'éloigner de son objet pour l'observer et le décrire comme une chose matérielle, dira-t-il encore. Et d'autre part, cet éloignement, cette distance devait permettre de limiter ou d'éviter les risques de la confusion psychologique entre ce que le sujet qui observe et l'objet qui est observé pouvait advenir. Autrement dit, s'il est facile de ne pas s'identifier à une pierre qui tombe, il est probablement plus difficile, en raison de cette commune nature, du sujet qui observe et du sujet qui est observé ou de l'objet qui est observé, il est beaucoup plus difficile d'éviter la projection, d'éviter la confusion des regards. Et d'une certaine manière, la formule « il faut considérer les faits sociaux comme des choses » est une formule qui devait mettre en garde contre cette difficulté, ou plutôt, contre cette difficulté. Alors je voudrais maintenant conclure rapidement en rappelant quels étaient les trois points qui ont constitué en quelque sorte les trois énigmes que j'ai essayé de résoudre devant vous. Il me semble que lorsqu'on s'intéresse aux origines de la sociologie, on peut les décrire à partir d'une triple histoire qui est une triple réponse à la question de la modernité. On peut s'intéresser à la sociologie d'une façon très positive ou positiviste en considérant que sur le plan des institutions, sur le plan de la naissance des conduites ou des pratiques scientifiques, la sociologie naît au tournant du XIXe et du XXe siècle, et que cette naissance, elle correspond à un moment tout à fait individualisé et repérable dans l'espace et dans le temps, et sur lequel d'ailleurs les historiens s'accordent. On peut considérer dans une deuxième histoire que comprendre cette naissance, c'est s'intéresser également au projet, c'est-à-dire à la nature même de ce qui est interrogé par le regard sociologique. De quelle manière la place de l'individu dans la société devient elle-même une question, et une question qui va être saisie à travers des couples d'alternatives comme communauté, société, etc. Cette histoire-là, elle montre déjà une plus grande variété dans les manières d'interpréter le projet sociologique. On peut, dans une troisième histoire, ou dans une troisième énigme, non résolue ce soir, mais qui reste ouverte, poser la question de la naissance de la sociologie comme celle de l'invention d'un regard qui lui-même s'adosse à la naissance du regard moderne, mais qui, évidemment, le particularise en considérant que ce qu'il s'agit d'inventer, ça n'est pas la nature, mais c'est la société comme nature. Je vous remercie.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
D'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
L'atome n'est pas un insécable.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Une cuisine est le reflet d'une époque.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
Est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas derrière tout ça une logique?
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Il y a beaucoup de choses en nous,
les particules élémentaires,
que nous ignorons.
Je veux bien répondre quand même.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Vraiment, ça ne sert à rien.
Bien qu'au fond, on s'aperçoit de plus en plus que...
Das Kapital, il ne dit pas der Kapitalismus.
L'Agora des Savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
La science est un discours.
Du 4 novembre 2009 au 16 juin 2010, à la découverte de nos origines, une trentaine de grands conférenciers vous invitent à un voyage au cœur de leur discipline. Astrophysiciens et biologistes, philosophes et historiens, théologiens et anthropologues se succèdent. Le mercredi soir à 20h30, salle Rabelais,